Voilà. Je vais aborder une question dans laquelle, dans un petit moment, Magali interviendra aussi. Et on aura un témoignage de cette phase de l'exposé, qui touche un peu aux différentes formes de dépression. Et c'est une façon d'aborder un petit peu les causes de la dépression, parce qu'on se pose une grande question à ce sujet-là, mais pourquoi cette maladie ? Se poser cette question, donc c'est exposer un petit peu aussi les causes de la dépression, en tout cas celles qu'on cerne, on est loin de discerner toutes ces causes. Les causes sont souvent mixtes, elles sont souvent plurielles, il y a souvent plusieurs causes. C'est rare que l'on trouve une seule origine à l'état dépressif. La première, c'est celle probablement qui vous vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la dépression réactionnelle, c'est-à-dire qu'un événement de la vie nous amène à avoir une réaction relativement légitime dans une situation qui est une situation grave, à laquelle nous n'étions peut-être pas forcément préparés. Alors c'est l'annonce d'une maladie grave, par exemple, parce qu'on annonce un cancer, une autre maladie sévère, un deuil, des situations de conflit, des situations de divorce. Et là, je fais une petite distinction, mais qui est assez artificielle, parce que les réactions à des situations graves sont assez partagées entre les hommes et les femmes, mais chez les hommes, plus spécifiquement, la perte d'emploi, les problèmes financiers, parmi les gens qui sont en précarité, il y a à peu près 56% des personnes qui sont dépressives. L'homme, là encore, ça touche à son identité, un petit peu la notion du chef de famille, celui qui va soutenir, apporter les revenus dans la maison, et son image dans les pertes d'emploi en particulier, particulièrement altérée. Chez les femmes, et là je vous parle un petit peu aussi de mon expérience, hein, un petit peu longue dans le domaine, c'est la misère conjugale. Moi je l'ai mis au premier plan. Les soucis avec les enfants, le surmenage, la souffrance au travail. Une patiente que j'ai vue ce matin, qui est venue m'annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'elle va mieux, elle est sortie de la dépression, elle n'a pas eu besoin de médicaments. On a passé beaucoup de temps à parler ensemble, qui est un cadre supérieur dans la fonction publique, et elle avait été mutée d'une façon totalement inattendue, assez injuste, comme une espèce de mise au placard. Elle l'a très très mal vécue. Et elle a pu exprimer les choses, d'abord avec le médecin, elle a pu l'exprimer, elle a vu aussi une psychologue, et elle a pu surtout l'exprimer à sa hiérarchie. Bon, dans la fonction publique, on était assez à l'écoute, c'est pas du tout souvent le cas dans la fonction privée. En 2-3 mois, elle a retrouvé vraiment toute sa forme, elle était rayonnante, reconnaissante. Ça fait plaisir, ce genre de consultation. Hein. Voilà. Une personne que j'ai vue hier soir, vous dire les dépressifs, c'est quasiment un par jour, hein, dans le quotidien d'un généraliste. Hein. Un homme que j'ai vu hier soir, qui a 80 ans, ancien colonel des sapeurs-pompiers, haut gradé, donc dans la fonction des secours, a eu un accident, et sur une histoire d'incompréhension avec la personne avec qui il a eu l'accident, il est parti. Et la personne avec qui il a eu l'accident s'est accrochée à sa portière, donc cette personne est tombée. Cet homme de 80 ans, mon patient, était parti chercher ses papiers, parce qu'il avait oublié ses papiers, justement. Il pensait qu'il revenait, et puis voilà, on faisait un constat, c'était simple. Mais l'autre s'est accroché, il est tombé. Un témoin l'a vu, délit de fuite. Abandon d'une personne blessée sur le bord de la route. Pour un colonel de sapeurs-pompiers, qui toute sa vie a voué sa vie au secours. Vous voyez un peu l'atteinte de l'image. Cet homme, un grand gaillard, un montagnard, 80 ans, était effondré en pleurs devant moi hier soir. On a parlé un bon moment, il est reparti, ça allait mieux. J'espère que ça va aller mieux d'une façon plus durable, on a convenu de se revoir très rapidement. Et donc voilà, typiquement, l'homme, la femme, l'atteinte à l'image, qui souvent chez le masculin, est mal supportée. C'est réactionnel, ça va. Dépression liée à des périodes de mutation. J'ai parlé tout à l'heure, l'adolescence, la puberté, une période difficile de fragilité, où le changement d'image corporelle aussi peut être mal vécu, difficile à supporter. Les dépressions liées à l'enfance et au grand âge, je n'en parle pas, elles sont assez spécifiques. On est dans une société qui crée de plus en plus de dépressions, des dépressogènes. En 10 ans, les statistiques montrent qu'on a une hausse de 18% par an du taux de dépression. Les pays riches sont plus touchés, quatre fois plus que les pays pauvres. Ce n'est pas une question de manque de moyens. On est dans une culture de la réussite, la culture du plaisir, du bonheur imposé. Il faut qu'on soit heureux, sinon il faut avoir son coach, ceci et cela. Il y a une insécurité qui apparaît dans les décisions, un grand individualisme, les gens sont très isolés, ils sont loin des familles, il n'y a plus de communauté, véritablement. Et ça explique un petit peu cette hausse des dépressions, dépressions en particulier réactionnelles. Une autre forme totalement différente de dépression, les dépressions saisonnières. Alors ça, c'est très très curieux. Ce sont des personnes qui, liées à la baisse d'ensoleillement à l'automne, début d'hiver, sombrent dans la dépression. Et le traitement de ces dépressions se fait par ce qu'on appelle la luminothérapie, l'exposition à une lumière artificielle qui comprend le rayonnement du soleil pendant une durée dans la journée, une demi-heure par exemple chaque jour, pendant la période hivernale. Et ces personnes traversent sans dépression la période hivernale. Voilà. C'est des personnes qui régulièrement, chaque année, à la période hivernale, passent par une phase de dépression. Ça explique peut-être un peu la fragilité qu'on remarque chez chacun d'entre nous, en période les journées sont plus courtes, c'est sombre, le temps est maussade, etc., où on est affecté. Et vous voyez que si on a cette situation-là, qu'au boulot ça ne va pas bien, ou que dans la famille ça ne va pas bien, si on rajoute peut-être un événement, une difficulté financière, etc., on peut comprendre qu'une chose, l'autre, surajoutée. La dépression saisonnière est liée au fait qu'on a une glande sous le cerveau, qui est sous l'influence de l'environnement, de la lumière en particulier, et qui impacte, si vous voulez, le cortex, l'endroit où sont les émotions, la pensée, etc., et des zones du cerveau dont dépend l'humeur. Donc on est là, on touche du doigt le fait qu'on est dans un processus biologique, véritablement, dans certaines formes de dépression. La dépression de la ménopause. La dépression de la suite d'accouchement ou au moment des règles. Mesdames, vous connaissez tout ça, c'est très périodique, c'est pas une dépression vraiment au moment des règles, c'est un passage à vide. Et là, on voit une cause hormonale. Par contre, avec la ménopause, on a des femmes qui, effectivement, par carence des œstrogènes, des hormones féminines, connaissent une susceptibilité à la dépression ou d'authentiques dépressions, véritablement, liées aussi au changement de statut en tant que femme, aux changements corporels qui sont induits par la ménopause. Et on touche là à une autre cause qui est encore d'ordre vraiment biologique. C'est les hormones. D'accord ? Ceci, j'insiste un petit peu lourdement là-dessus, la dépression, c'est pas que dans la tête. D'accord ? C'est effectivement dans le cerveau que ça se passe, mais c'est pas que dans la tête, pas une idée, pas un caprice par rapport aux idées reçues dont on parlait tout à l'heure. Une autre forme de dépression, alors là on parle plutôt d'une maladie globale qui comporte une part de dépression, et dont je veux dire quelques mots pour évoquer une autre cause, une autre origine, c'est ce qu'on appelle le trouble bipolaire, qui comporte dans l'évolution de l'humeur des personnes une alternance dans des proportions variables et à des rythmes variables. Je vais expliquer un petit peu. L'apparition de périodes qu'on appelle mélancolique, donc de dépression, et des périodes qu'on appelle des périodes maniaques. Alors ça n'a rien à voir avec je frotte, hein. C'est ce qu'on appelle en médecine la manie, c'est-à-dire des épisodes d'agitation, d'accélération de la pensée, etc. Dans sa forme la plus grave, qui est la psychose maniaco-dépressive, voilà, ici, on est dans une maladie qui est d'une sévérité extrême, qui se manifeste souvent par des suicides, et qui a un caractère franchement génétique. Qui a un caractère franchement génétique. Et on a isolé maintenant, avec les recherches de génétique, on a isolé des gènes précis qui sont connus maintenant, et qui donnent à cette maladie un caractère familial. Et là-dessus, il faut que je m'explique. On a un patient qui tombe malade, si on dresse son arbre généalogique, on va se rendre compte qu'il y a un oncle paternel, par exemple, qui s'est suicidé, jeune. On remonte un peu plus haut, c'était dans la génération au-dessus, un autre homme, par exemple, qui s'est suicidé. Et on dresse comme ça un arbre généalogique, on s'aperçoit qu'il y a un suicide par-ci, suicide par-là, par-là. Et on est face à une personne qui est aussi authentiquement malade, avec un accès dépressif, mais d'une profondeur extrême. Une torpeur des personnes, on n'arrive plus à leur arracher un mot. Ils sont prostrés, aucune réaction, une douleur morale profonde et souvent des délires de culpabilité, d'inutilité, de je suis nul, je fais que souffrir tout le monde, je ne mérite pas la place dans la communauté humaine. Et c'est des personnes qui ont un risque suicidaire majeur. C'est une maladie d'une très grande gravité qui nécessite, dans cette forme aussi grave, qui nécessite une hospitalisation immédiate. C'est une maladie qui est liée à une structure génétique particulière qui correspond à un dysfonctionnement vraiment du cerveau. Il y a dans cette maladie des hallucinations, il y a des délires, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas, qui sont exprimées, dont ils s'approprient la culpabilité, la responsabilité dans cette forme mélancolique. Et puis, lorsqu'ils sortent avec un traitement ou éventuellement sans traitement, lorsque c'est une forme aussi grave, c'est rarement sans traitement, mais lorsqu'ils sortent de cet épisode mélancolique, ça peut basculer vers un épisode maniaque où on a l'inverse, si vous voulez, c'est l'opposé, avec une agitation frénétique, inépuisable, l'accélération de la pensée, c'est-à-dire qu'on sort une idée, on parle d'un truc, on passe à un autre sujet, on saute, on n'arrive pas à suivre la conversation. Il y a des insomnies, ce sont des personnes qui sont capables de rester plusieurs nuits sans fermer l'œil une seconde, et qui ne sont pas fatiguées. La parole a un flux accéléré, un débit énorme, il n'y a jamais de pause. Ils passent d'un sujet à l'autre. Il y a une euphorie qui est paradoxale parce qu'ils sont malades, manifestement, et ils sont euphoriques, ils rigolent, mais souvent à tort et à travers. Ils disent un mot, ils éclatent de rire, mais complètement, c'est complètement inapproprié. Quand vous êtes face à de telles maladies, je vous assure, c'est très déstabilisant. Hein. C'est particulier. Il y a des rêves de mégalomanie. Ils se sentent capables de tout. Il y a de la familiarité, on tutoie le médecin, on est amis, etc. Il y a des conduites d'hypersexualité, c'est-à-dire des relations sexuelles à tout va, frénétiques, et des dépenses inconsidérées. Je vous cite un ou deux exemples, hein. Je crois qu'on a rattrapé un petit peu de temps, je peux me permettre de donner des exemples. Je me souviens d'un patient donc, qui, suite à un autre traitement qui l'avait déstabilisé psychiquement, a fait un épisode maniaque. En un samedi après-midi, il a acheté 8 voitures neuves dans des concessions différentes. 8 voitures neuves. Alors, c'est évident que tous ces achats ont pu être annulés, bien sûr, avec un certificat médical. Je pense à une autre jeune femme qui a fait à plusieurs reprises, que j'ai suivi il y a plusieurs années, à plusieurs reprises des épisodes maniaques comme ça, on l'a retrouvée à des dizaines de kilomètres de chez elle. Elle avait marché à pied, dans le froid, à moitié dévêtue, et elle n'était absolument pas fatiguée. Elle avait eu des relations sexuelles avec n'importe qui, enfin c'était de la folie. Des dépenses inconsidérées. Je pense à un autre patient qui, dans un épisode du même type, là j'avais été appelé en urgence quand je faisais encore des gardes, avait vidé la totalité de son appartement, de tous les meubles, en les jetant par la fenêtre. Il avait fait le vide, on pouvait faire l'état des lieux. Et, donc là c'était un appel avec la police, bien entendu. Et là, on fait pas tellement les courageux, on fait passer les flics devant, puis on dit on arrive derrière avec la piqûre. Mais voilà un petit peu l'exemple d'un épisode maniaque. L'épisode mélancolique, c'est la dépression extrême, c'est l'effondrement, c'est une personne qui est prostrée dans le lit en position fœtale, voilà, à qui on ne peut plus tirer un mot. Ce sont des situations d'une gravité extrême, et c'est les formes extrêmes du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire peut se manifester d'une façon beaucoup plus atténuée, et avec des périodes un petit peu de déprime, et puis des périodes où on sent que les personnes sont un petit peu trop, moi je dis up, down, voilà, un tout petit peu trop agité, un petit peu trop active, etc. C'est à peine sensible, si on n'est pas sensibilisé à ce genre de diagnostic. Et donc, dans toutes ces formes, que ce soit des formes graves ou pas, il y a un caractère génétique. Alors, quand on dit un caractère génétique, peut-être certains ici pensent, ben oui, dans ma famille, il y a eu une chose comme ça. Le caractère génétique n'est jamais une condamnation pour les personnes de la descendance. C'est un trait de fragilité. Et très souvent, il faut qu'il y ait un petit autre chose, un événement, ou il faut qu'il y ait eu une circonstance de stress particulier, de fatigue particulière, ou d'arrêt des médicaments de façon complètement improvisée, sans que cela ait été conduit par le médecin, pour que ça se déclenche. Et je connais, on a connu dans l'Église, une femme, un homme qui a été ancien dans l'Église pendant quelques années, il y a plusieurs années maintenant, qui avait dans sa famille cette maladie, plusieurs cas de cette maladie, et qui se savait un petit peu fragile. Elle le voyait vraiment elle-même dans son fonctionnement, mais mariée avec un homme stable, un chrétien engagé, très bienveillant vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son épouse en particulier, avec des enfants aussi qui lui donnaient de la joie, avec une profession qui était une profession épanouissante, et prenant des précautions dans sa propre vie par rapport au stress, à l'exagération de surcharge, etc., a mené jusqu'à présent, et elle a plus de 50 ans maintenant, a mené toute son existence sans jamais, jamais sombrer. Donc, elle sait qu'elle est porteuse, vraisemblablement, du gène. Mais, voilà, elle a aménagé ses conditions de vie en tenant compte de sa fragilité, de façon à ne pas sombrer. Elle n'est pas sous traitement. La maladie, le trouble bipolaire, à proprement parler, surtout dans sa forme grave, nécessite la mise en œuvre d'un traitement, après une hospitalisation, et c'est un traitement qu'en général, il faut poursuivre définitivement, parce qu'il y a vraiment un trouble dans le fonctionnement du cerveau qui doit être corrigé par des médicaments, et l'arrêt du traitement est souvent difficile, met les personnes à la merci, surtout si elles ont déjà essayé, met la personne à la merci d'une rechute. C'est une maladie qui est susceptible, évidemment, de rechuter. On est ici dans une cause qui est un peu génétique. On ne l'a pas voulu, on est comme ça, parce que dans la famille, il y a ce gène qui se transmet. Ceci pour dire que la dépression est une vraie maladie du cerveau. Et quand on dit « oui, c'est uniquement dans la tête », etc., est-ce qu'on voudrait dire par là que la tête ne fait pas partie de notre corps, que notre cerveau ne fait pas partie du corps, et que finalement les maladies doivent s'arrêter au niveau du cou et surtout pas monter au-dessus? Et je parle là surtout du raisonnement tenu par certains chrétiens, qui voit tout de suite dans la maladie psychique une espèce de malédiction, une espèce de possession, je ne sais quoi. Et il faut bien prendre conscience que la dépression est une vraie maladie du cerveau. Deux, trois éléments encore pour vous en convaincre un peu plus, c'est qu'on a dépisté dans les cerveaux de personnes qui déprimaient et qui rechutaient, parce que la rechute, est, une personne qui a fait un état dépressif est souvent plus à la merci de rechuter ultérieurement, surtout si elle se met en déséquilibre. On a découvert des causes biochimiques. Les relations entre les neurones, par des neurotransmetteurs, ne se font pas correctement. Il y a un déficit de certaines substances chimiques qui permettent, si vous voulez, le contact entre les différents câbles du cerveau, sur l'image, la sérotonine, la noradrénaline, par exemple, qui sont diminuées dans leur présence dans le cerveau. Il y a des structures cérébrales qui apparaissent comme modifiées même anatomiquement dans le cerveau de personnes qui ont tendance à la dépression. Et on se pose la question, à ce niveau-là, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence de l'état dépressif? Et je vous dis franchement, ce n'est pas totalement tranché. Est-ce que c'est la dépression qui a induit ces modifications ou est-ce que c'est ces modifications qui induisent la dépression? Moi, j'ai tendance à pencher plutôt sur la deuxième hypothèse. Et il y a d'autres éléments à l'appui, je vais vous les évoquer immédiatement. Souvent, j'emploie cette image de la batterie à plat. On a vécu des circonstances difficiles, il y a eu des tensions, il y a eu des soucis, il y a eu ceci ou cela qui s'est surajouté. Et donc, ça a épuisé, si vous voulez, nos ressources psychiques. Et arrivé à un moment donné, c'est à plat, voilà, on ne démarre plus. On n'a plus la force de démarrer la journée, on n'a plus la force de se réjouir des choses réjouissantes, on n'a plus la capacité d'être heureux, c'est comme une batterie à plat. Et souvent, il faut recharger, si vous voulez, la batterie. Et les médicaments qui peuvent être donnés dans certaines circonstances ne sont pas toujours nécessaires, on y reviendra, loin de là, vont agir sur cette cause biochimique, c'est-à-dire recharger les neurotransmetteurs, si on recharge la batterie, pour que ça puisse retourner rond dans le cerveau, et surtout que ça permette de passer à une étape qui vient ensuite, qui est celle de réfléchir à son propre fonctionnement, pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour changer, pour essayer de ne pas retomber et sortir de cet état dépressif. Mais à un moment donné, parfois, les médicaments sont nécessaires. Donc c'est l'explication du fonctionnement des médicaments. Ils agissent justement sur ces neurotransmetteurs, pour la plupart d'entre eux. Et des pistes nouvelles ont été découvertes ces toutes dernières années, c'est des choses extrêmement récentes. On a réussi à traiter certaines dépressions simplement en implantant des électrodes dans le cerveau, avec un stimulateur, dans certaines zones bien précises qui ont été identifiées comme étant responsables justement de l'état dépressif, et par des stimulations électriques de ces zones, rendre les gens à nouveau dans leur état normal, sans dépression. On est bien là dans une vraie maladie du cerveau. Je réinsiste, c'est des éléments en plus. Dernière piste intéressante, alors celle-là, elle est en pleine recherche actuellement, c'est qu'on s'est rendu compte, elle va vous étonner énormément, elle nous démontre combien nous sommes une unité complète, corps et esprit, parce qu'on nous dit, bon, la dépression, c'est l'esprit, mais on est une unité complète, l'écriture déjà nous le dit, nous sommes corps, âme et esprit. On s'est rendu compte que certaines souris, on va partir du laboratoire, ont une tendance dépressive. Alors on s'en rend compte à leur comportement, elles ont du mal à aller vers les autres, elles ne recherchent pas d'activité sexuelle, elles ont du mal à aller vers la nourriture, etc. On se rend compte de cela, il y a des tests pour ça. Lorsqu'on prend les selles, le caca, hein, de ces souris, et qu'on greffe ces selles à d'autres souris qui ont un comportement normal. Alors, c'est assez facile à faire, hein. Ça paraît pas très approprié au milieu d'un repas de parler de ça. On se rend compte que ces souris à qui on a greffé ces selles deviennent elles aussi dépressives. Ça voudrait dire que, y compris ce qui se passe dans notre intestin, c'est-à-dire ces milliards et milliards de bactéries qui nous habitent et que nous héritons en général, dans la plus petite enfance, au moment de l'accouchement, au moment de la période d'allaitement, au contact de la maman, ces bactéries pourraient être responsables, et ça a été découvert maintenant authentiquement chez l'homme aussi, de situations, par exemple, de personnes sujettes à l'angoisse, plus particulièrement, ou sujettes à la dépression. Et on est là sur des pistes qui sortent complètement de simplement d'une maladie du cerveau, mais on voit qu'il y a une interrelation vraiment profonde entre le reste de notre corps, et en particulier ce qu'on appelle le microbiote intestinal, et le fonctionnement cérébral. Or là-dessus, ce sont des domaines de recherche assez récents, mais tous ces éléments, je les apporte pour montrer que la dépression est d'abord et avant tout une maladie, véritablement, et qu'on ne peut pas accuser quelqu'un simplement. Tu as du manque de volonté, c'est de la faiblesse, tu te complais dans cette situation, etc., pour créer la dépression. Les dépressions, je l'ai dit tout à l'heure, ont tendance à récidiver. Là encore, ce n'est absolument pas une condamnation. Lorsqu'on a fait une dépression, ça nous amène à prendre contact peut-être d'une certaine fragilité, justement, de notre fonctionnement cérébral, de notre fonctionnement psychique, et à mettre en place les éléments nécessaires pour éviter de ressombrer. On y viendra un tout petit peu à la fin. Il y a des formes de dépression qui sont chroniques, des gens qui sont dépressifs un peu toute leur vie. Et ceci pour ressouligner encore que les causes sont multiples et que, assez souvent, on va avoir du mal à détecter une cause véritablement visible. Et ça soulève une autre question qui est celle de notre personnalité. Nous avons tous une personnalité différente, qui s'installe au cours de notre enfance, qui s'installe par conformité à des modèles dont nous avons été témoins, nos parents ou des gens autour de nous, qui s'installe cette personnalité suite à des expériences de la vie, traumatisantes ou pas. On pense par exemple au traumatisme sexuel dans l'enfance, des choses comme ça qui souvent marquent une personnalité de façon bien précise. Et le résultat, c'est que cette personnalité s'est parfois édifiée d'une façon un petit peu pathologique. parce qu'il y a eu ces événements difficiles, des carences affectives, des expériences de dévalorisation, de harcèlement, où on a eu des mauvais modèles, etc., dans notre jeunesse, dans la construction de notre personnalité. Et sur cette personnalité, vont se greffer des déviances, si vous voulez, ou des traits qui vont être plus marqués d'une façon exagérée et qui vont nous rendre susceptibles d'avoir des pathologies dépressives ou d'autres pathologies psychiques dans lesquelles, par exemple, si nous sommes dans une dépendance particulière vis-à-vis des autres, lorsque nous allons avoir une déception dans une relation, eh bien nous allons vivre cette déception d'une façon beaucoup plus grave, lourde, que quelqu'un qui a une dépendance aux autres relativement normale. Vous voyez ce que je veux dire? Si je compte énormément sur mes relations avec les autres dans ma vie, et j'ai une déception, quelqu'un m'abandonne, me fait faux bond, je lui donne un rendez-vous, il ne vient pas, je redonne un autre rendez-vous, il ne revient pas. Je vais vivre ça comme un sentiment vraiment profond d'abandon, je ne vaux rien, je ne vaux pas la peine d'une relation, et donc je vais commencer à être affecté émotionnellement. Magali va aller un petit peu plus loin sur ce terrain. Si, par exemple, dans ma vie, je suis habité fortement par le doute, eh bien, constamment, je vais remettre en question un petit peu mes choix et basculer vers des troubles obsessionnels compulsifs qui consistent constamment à revenir sur ce que j'ai fait avec un désir constant de perfectionnisme et de revenir d'une façon circulaire, compulsive, on dit, avec l'incapacité de le contrôler. Je vous cite un exemple, je ne l'ai pas vécu celui-là, mais ça m'a été cité dans une formation en psychiatrie que j'avais faite. Un homme de la région parisienne, qui était atteint de TOC, prépare ses bagages pour partir en vacances, il charge sa voiture, il part avec sa voiture, il va prendre l'autoroute, il ne fait pas un kilomètre, qui se dit « j'ai pu renverser quelqu'un sans m'en rendre compte » et le laisser sur la route sans secours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier. Il fait demi-tour, il revient en arrière, il vérifie, il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Il arrive chez lui, il dit « bon, je repars ». Il repart, il fait 1 ou 2 kilomètres, même chose, même idée obsessionnelle, j'ai pu faire du mal à quelqu'un, il revient. Il a fait ça 8 fois, et il n'est jamais parti. Parce que c'était à ce point oppressant qu'il ne pouvait pas accepter, arriver à vaincre, à dépasser cette obsession, je peux avoir fait du mal à quelqu'un sans m'en rendre compte. D'accord ? Voilà, par exemple, quelqu'un qui est habité par le doute dans sa personnalité. Il peut basculer de cette façon-là. Mais ce n'est pas non plus une condamnation. Si vous vous reconnaissez dans ces traits de personnalité qui sont vraiment amplifiés chez vous, ne vous dites pas automatiquement « je vais sombrer dans une de ces maladies évoquées hein. ». Quelqu'un qui vit avec une confiance excessive en lui-même, hein, il va facilement basculer vers d'autres pathologies psychiatriques, par exemple. C'est quelqu'un qui d'habitude réussit tout. Un coup, il va rater quelque chose, il va se voir faire un reproche sur son lieu de travail. « Monsieur, votre travail a été nul ». C'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu le formuler, effectivement. Mais cet homme-là va peut-être d'emblée, sur cette pensée-là, je suis nul, et s'effondrer dans un état dépressif. L'impulsivité, la rigidité, l'incapacité d'avoir de la souplesse dans son fonctionnement psychique, de l'adaptabilité, l'indifférence à autrui, la froideur excessive, la méfiance, l'inhibition, la difficulté à s'exprimer, à aller vers les autres, le besoin de plaire absolument. Tout ça, ça peut être des traits qui marquent notre personnalité, qui se sont construits pendant notre enfance, notre jeunesse, au travers des expériences de notre vie, et qui font qu'on va être plus ou moins susceptible si en plus il nous arrive un événement de la vie difficile, un deuil, la perte d'un emploi, ben voilà, boum, on a le cocktail nécessaire pour sombrer dans la dépression. Je sais pas si je m'explique. On comprend par là cette association souvent de plusieurs causes ensemble pour amener quelqu'un à déprimer. Et la raison pour laquelle, souvent, on voit des causes principales, mais on ne voit pas forcément une cause essentielle et unique. Je vais laisser la parole à Déborah, si tu veux bien venir, Déborah, qui va nous, elle aussi, a accepté d'avoir le courage de témoigner d'un petit événement de sa vie qui aurait pu être peut-être plus lourd.
Merci. Bonsoir à tous. Bon, j'ai bien écrit là parce que... D'accord. J'ai bien écrit pour rien rater. Bon, j'espère bien m'exprimer pour que vous puissiez toutes bien me comprendre. Parce que j'ai un accent qui peut être un peu difficile à comprendre. D'accord. Il y a quelques semaines, je me suis aperçue que j'avais quelques signes de dépression. Cela n'était pas trop difficile à voir parce que j'ai déjà eu de la dépression dans le passé. J'avais un sentiment de tristesse tous les jours. J'avais du mal à retrouver l'intérêt dans les activités qu'avant m'étaient agréables à faire. J'étais souvent fatiguée, entre autres. J'avais au moins 7 signes. Mais tout cela, c'était à cause des grosses pressions que je mettais sur moi-même. Je me suis lancée sur de nombreux projets personnels, professionnels et spirituels. Et pour chaque projet, j'avais élevé la barre très haute. Tout ça en essayant d'être une maman, épouse, amie, étudiante, membre d'église, fille, sans faille et en prenant compte de l'opinion des personnes autour de moi. J'avais toujours ce besoin de soigner mon image devant les autres. J'étais tellement concentrée sur la performance et l'accomplissement parfait de tous ces projets et sur mon image que je ne me suis pas rendu compte qu'ils sont devenus des idoles pour moi. J'étais aveuglée par mon péché. Alors, je cherchais de l'aide. Et après avoir compris où étaient les problèmes, j'ai balayé toutes ces fausses pensées oppressantes et je me suis dit que j'allais continuer quelques projets, mais cette fois-ci en les remettant à sa juste place et pas au centre de ma vie. Si j'arrive à les accomplir, bien, mais si je n'arrive pas, sans problème. Ma vie va continuer à être un très beau cadeau de Dieu. Et par rapport aux opinions des autres, j'ai laissé tomber. L'unique opinion qui compte pour moi aujourd'hui et pour toujours, c'est l'opinion de mon Sauveur et Seigneur. La bonne parole au juste moment m'a aidé à donner une nouvelle perspective à mes pensées handicapantes et erronées et suivre ma vie de manière plus légère et sous la grâce rédemptrice de notre Seigneur. Merci.
Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus psycho. En fait, ce qu'on remarque au niveau de la dépression et des troubles de façon générale, merci, c'est qu'il y a un lien avec les pensées. Les pensées, inexorablement...
C'est le métier de Magali, pour celles qui la connaissent pas.
Ouais, c'est ma formation, voilà. Inexorablement, les pensées, elles influencent nos émotions. Pour ça, vous pouvez repenser à un moment...
Merci. C'est bon, là ?
Ouais, c'est bon. Vous pouvez repenser à un moment, je sais pas, où vous êtes senti stressé, où vous êtes senti pas bien, et vous pouvez peut-être vous souvenir de la façon dont vous avez pensé. Prenons l'exemple. Imaginons que vous êtes disputé avec votre conjoint ou avec une amie, et parce que cette personne, dernièrement, elle vous a consacré peu de temps. Vous avez différentes façons d'appréhender la situation. Vous pouvez penser il exagère, vous pouvez faire des efforts, et ça va être lié à de l'énervement, de la colère, peut-être de la tristesse, de se sentir négligé. Ou c'est de ma faute si on s'est disputé, j'en demande trop. Et là, ça va être de la culpabilisation, de la tristesse. Enfin, vous voyez un petit peu, j'ai mis deux exemples. Vous pouvez penser à des exemples qui vous sont personnels, mais nos pensées influencent nos émotions. Et donc, une seule situation, différentes pensées, différentes émotions. Souvent, ces pensées, elles deviennent un prisme par lequel on regarde la situation. Ça peut être des choses qui sont vraiment très réactionnelles, mais ça peut aussi s'inscrire dans la façon dont on va appréhender chacune de nos réactions à différents événements. Et le souci, c'est qu'en fait, on a des biais de pensée. On appelle ça des distorsions cognitives en psycho. Et ces biais, on est tous sujets. Chacun à son niveau. Et je vais vous en exposer quelques-uns. Alors, comme ça, on va reprendre l'exemple d'avant avec cette dispute avec conjoint ou ami. Il y a un biais qui s'appelle le tout ou rien. C'est-à-dire que dans cette dispute, vous allez vous dire, punaise, je vais tout perdre, ça y est, l'amitié, elle est finie, cette personne, on n'aura plus de relation, alors que c'est une dispute. Et donc, dans notre réaction, ça va être soit c'est tout, soit c'est rien. Il y a ce qu'on appelle la surgénéralisation ou la généralisation excessive. Typiquement, ça va être, on se dispute tout le temps, ou ça va jamais bien entre nous. Donc, vous faites une généralisation de cette situation. On va avoir l'exagération, ou c'est aussi ce qu'on appelle la minimisation du positif et la maximisation du négatif. Donc, un exemple, ça va être, il n'y a plus rien qui va, ou notre couple ou notre amitié ira jamais mieux, c'est la crise, on a toujours des problèmes. Et en fait, vous allez regarder à ce qui est négatif et maximiser ça et minimiser un petit peu ce qui est positif. Il y a ce qu'on appelle des conclusions hâtives. Dans les conclusions hâtives, on a typiquement la lecture de pensée. La lecture de pensée, c'est l'idée de, si on s'est disputé, ça veut dire que cette personne, elle m'aime plus, ça veut dire que, en fait, si elle passe pas du temps avec moi, ça veut dire qu'en fait, elle veut me quitter, vous voyez un peu l'idée où, vous n'avez pas reçu un message de cette personne, ça veut dire que elle a plus d'intérêt pour moi, tirer des conclusions de ce que la personne pense à partir de la situation. On a aussi dans les conclusions hâtives les fausses prédictions. Typiquement, ça veut dire, après cette dispute, ça veut dire qu'il va ou elle m'abandonner, ou elle tirer un peu des prédictions de ce qui s'est passé. Et, des fois, c'est drôle parce que ça peut être auto-réalisateur, c'est-à-dire en anticipation de ça, on va agir pour que ça arrive. Sans vouloir, c'est pas... pas du masochisme, bref. Et puis, il y a ce qu'on appelle les pensées de dévalorisation. Donc, je ne mérite pas d'être aimée. Cette dispute, c'est de ma faute. C'est parce que je suis nulle, je ne suis pas une bonne amie, je ne suis pas une bonne épouse, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le perfectionnisme. Et là, Déborah, elle en a beaucoup parlé. C'est ce côté « je dois ». Je dois être une bonne épouse, je dois être quelqu'un sans faille, je dois toujours tout réussir, je dois, etc. Et en fait, ces biais de pensée, ces distorsions, elles vont impacter nos émotions et donc la façon dont on voit les choses. Je vous invite juste à faire l'exemple quand vous vous sentez stressé dans votre semaine ou quoi, regardez un petit peu ces pensées qui viennent et vous vous rendrez compte qu'on a tous certains qui nous sont plus propres. Moi, je sais que, par exemple, je suis très typique à la dévalorisation et à l'exagération. Mais c'est des choses que vous pouvez faire et vous verrez comment ça influence aussi vos émotions de les repérer, ces biais de pensée. Parce que le début, ça commence par là. Repérer que ce sont des biais, que des pensées, ce n'est pas des faits objectifs et que ces pensées-là, elles doivent être aussi soumises à la réalité, quoi, et dans la parole à Dieu. Les études, elles ont montré que le fait de rester sans arrêt sur des pensées, ça s'appelle la rumination mentale, le fait d'être en boucle sur des pensées, elles ont montré que les femmes sont plus à même à la rumination mentale, ce qui est aussi une des raisons pourquoi les femmes sont plus sujettes à la dépression. Et il y a différents types de ruminations. Il y a des ruminations qu'on appellera négatives, qui portent sur le pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça portera sur les causes ? Pourquoi ? Ou sur les conséquences, etc. Et puis il y a des ruminations qui sont plus concrètes, qui vont porter sur le comment. Le problème de la rumination, c'est que ça revient en boucle. C'est qu'en fait, on sort pas de cette boucle. Et en fait, l'idée, c'est que en repérant déjà nos distorsions cognitives, la façon dont on pense, c'est la première étape pour sortir de cette boucle qui tourne dans la tête. Voilà.
Alors, toute cette question qui a été abordée là mériterait beaucoup plus de temps, mais dans le cadre d'une soirée comme celle-ci, où on essaie d'être synthétique et de survoler la question, on ne peut pas s'attarder, mais on pourrait prendre plein de situations, celles que l'on vit, et suivant la façon dont, justement, nos pensées ont été éduquées à évoluer, si vous voulez, on a des schémas, on a des scénarios, et on pense toujours un peu de la même façon, eh bien, on va aller soit vers un comportement tout à fait normal, paisible, des réactions rassurantes, ou alors on va aller vers le grand plongeon, vers la dépression. Comme l'a exposé Déborah, voilà, quand on se met une barre très haute et puis on se rend compte qu'on n'y arrive pas, et puis que les choses s'accumulent et puis qu'on n'arrive pas à faire face, on a le choix de faire deux choses. Soit on remet, on se pose, on dit « Seigneur, écoute, demain, ça se fera » ou « Seigneur, je vis dans la grâce, je ne veux plus me mettre cette tentation » ou alors de se dire « Voilà, je suis en train de m'effondrer, je suis nul, je n'arrive pas à faire face à tout ce que je voulais m'imposer. » Donc, oui, cette question est fondamentale et elle va intervenir en lien avec tout le reste qu'on a dit par ailleurs. Si sur le plan génétique, sur le plan de la biochimie de notre cerveau, on a un trait de fragilité, eh bien, le mauvais fonctionnement de nos pensées va nous précipiter vers le bas. D'où la nécessité d'un changement. Et c'est l'objectif, souvent, des psychothérapies, que de nous amener à réfléchir à notre façon de fonctionner. Est-ce que je suis quelqu'un qui fonctionne constamment dans le perfectionnisme, qui se met des obligations et des barres tellement hautes que, quand je ne les atteins pas, je vis un sentiment d'échec qui me déprime. Cela montre surtout la nécessité, et là on aborde un point de vue chrétien de ces pathologies et de notre façon de penser, ça nécessite surtout un changement que Dieu veut opérer en nous. Je cite ici une phrase de Tim Keller, notre vrai moi, notre véritable individu, est le moi que nous sommes devant Dieu, et non pas simplement à nos yeux. Marcher avec Dieu signifie que son regard et son opinion sont les seules choses qui comptent. Et ce n'est pas ce que je pense de moi, d'une façon souvent négative, qui va compter, mais c'est ce que Dieu pense de moi, véritablement. Ça, c'est apprendre à vivre vraiment dans la grâce. Ça nécessite une véritable réforme du fondement de notre identité, de nos valeurs, de nos priorités, sur la base de ce que la parole en dit. Et la parole de Dieu nous donne vraiment des pistes pour réfléchir là-dessus. Le livre des psaumes est très riche. À la fin de la soirée, je ne vais pas le développer là, ici, parce que ça nous mène un petit peu trop tard, mais à la fin de la soirée, je vous donnerai un petit carton. Vos maris, normalement, ont reçu à peu près le même. Là, il est un peu plus complet. Que je vous invite à mettre dans votre Bible et à le lire, qui vous amène à réfléchir sur... Enfin, vos maris, pour ceux qui en ont. qui en ont déjà. Je vous invite à le mettre dans votre Bible pour vous y reporter de temps en temps et réfléchir. Comment est-ce que je pense? Est-ce que je pense comme Dieu veut que je pense, ou est-ce que je pense tordu? Et on se rend compte dans la parole de Dieu, et pour moi ça a été une découverte un petit peu au travers de ces versets, que la parole de Dieu est très fine sur le plan de notre fonctionnement psychique. L'apôtre Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Le verset a un contexte particulier qui est les forteresses un peu intellectuelles ou philosophiques qui nous entourent, et que finalement ces modes de penser la vie, de penser le monde, nous devenons les amener à l'obéissance de Christ. Mais on oublie souvent que nous sommes nous-mêmes une forteresse de pensée, et de pensée captive. Captive de quoi? Captive de notre passé, de cette personnalité que nous avons construite ou qu'on a construit parfois à notre insu d'une façon faussée, avec ses biais cognitifs, comme on a dit tout à l'heure, les exagérations, les analyses constamment négatives, la dévalorisation de nous-mêmes, etc. Ces pensées captives finalement du péché, parce que pour mettre un nom sur ça, c'est le péché, ces pensées captives, nous avons besoin de les amener à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire apprendre à voir la vie comme Dieu la voit, comme Dieu voit nos propres vies. Avoir notre identité comme Dieu voit notre identité et non plus comme nous la voyons. Et nous sommes captifs les uns et les autres de notre moi, notre individu pécheur, de notre personnalité, de nos pensées biaisées, de notre caractère aussi. Et c'est véritablement cela que le Seigneur veut changer. Si on lit les fruits de l'esprit dans Galates, l'amour, la joie, la paix, ce sont tous des fruits qui nous conduisent que vers la plénitude de vie et le bonheur. Et si on lit les fruits de la chair, à côté de ça, on se rend compte que ce sont tous des fruits qui nous conduisent, au contraire, vers un état de déprime, qui nous conduisent vers le bas. Donc si nous apprenons à vivre vraiment selon l'Esprit de Christ dans nos propres vies, que nous acceptons vraiment qu'il reconstruise une identité juste en nous, au travers de sa parole, et sa parole nous donne, j'en ai mis ici une bonne trentaine, je crois, dans ce carton, des pistes, eh bien, il y a une relation de confiance qui se bâtit à nouveau avec notre Père, il y a une vie spirituelle équilibrée qui en résulte, et il y a une espérance aussi qui nourrit nos vies sur la base du modèle de Christ. Et véritablement, ça peut changer les choses. Et toute la relation d'aide chrétienne qui est un apport considérable pour des personnes qui ont cette fragilité, eh bien, est fondée là-dessus. Reconstruire vraiment un homme nouveau. Je vous cite ce verset encore qui vient à l'appui de cette thèse. C'est conformément à la vérité qui est en Jésus, en lui vous avez appris à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme qui pense mal, qui pense faux, l'homme qui se dévalorise, l'homme qui plonge, ou l'homme au contraire qui se réfugie dans l'orgueil, l'égoïsme, hein, c'est le parano. Bon, le vieil homme, le voilà, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et c'est ça, c'est des pensées qui vont changer. Lorsqu'on les reconnaît, lorsqu'on y réfléchit, et lorsqu'on accepte que Dieu les reconstruise, ces façons de penser, dans une espèce de discipline, « Seigneur, je te soumets vraiment mes pensées, et quand je me trompe, je confesse, parce que là, je me suis trompé, ça veut dire que j'ai péché devant toi. » Eh bien, nous sommes amenés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que, en fait, ce qui nous détruit psychiquement, c'est le mensonge. Et nous sommes tous victimes de mensonges. Ce dont Déborah a témoigné, c'était un mensonge. C'est-à-dire, tu n'as de valeur que si tu réussis au top de tout ce que tu entreprends. C'est un mensonge. Et nous sommes tous face à des mensonges, et on peut en lister un certain nombre, et alors que la vérité, Jésus a dit, elle nous affranchit la vérité. Donc voilà un petit peu ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Alors, il y a là un processus. Quand une personne est prostrée au fond de son lit, comme je l'ai décrit tout à l'heure dans certaines formes de dépression, quand une personne en est au stade où elle est incapable de réfléchir sur elle-même, d'avoir la moindre réflexion, le moindre dialogue tellement elle est affectée, bien entendu qu'il y a besoin de médicaments pour l'amener à un niveau tel qu'ensuite elle puisse exprimer des choses. Et ça, on le voit bien dans le processus de traitement d'un dépressif. On le voit une première fois, on ne peut rien en tirer, il n'est pas capable de réfléchir sur lui-même. À la limite, si on le pousse trop à réfléchir sur lui-même, on le culpabilise même, on rajoute à sa dépression. Mais au bout d'un certain temps, lorsque le fonctionnement de son cerveau s'est amélioré et qu'il retrouve des capacités de réfléchir sur lui-même, de réfléchir à sa vie, à ses valeurs, à son identité et tout ça, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à faire un travail qui va le contribuer à le sortir de la dépression, premièrement, et surtout l'armer pour éviter de sombrer dans la dépression. Et nous qui avons foi dans le Seigneur, qui avons confiance dans la parole de Dieu pour ça, mais on a un outil qui est extraordinaire, que d'autres n'ont pas justement dans ce domaine-là. Et simplement des paroles, on peut aider les gens avec des paroles, bien entendu. C'est le boulot de Magali, c'est notre boulot en tant que médecin, on est plusieurs ici, quelques-uns ici. Mais la parole de Dieu nous apporte quelque chose d'infiniment au-delà. Mais il y a besoin, à un certain moment donné, de médicaments. Il y a besoin, parfois, d'une hospitalisation radicale lorsqu'il y a un risque suicidaire. Je me rends compte que j'ai oublié de parler du risque suicidaire. J'ouvre vite une parenthèse ici. Le risque suicidaire, vous avez vu, c'est le risque majeur. Vous avez entendu le nombre de morts liés au suicide. Et c'est une réalité qui, parfois, peut toucher des chrétiens aussi. On a vécu dans notre église, il y a de nombreuses années, il y a une ou deux personnes ici qui s'en souviennent, le suicide d'une jeune femme qui avait un passé psychiatrique extrêmement lourd. Lorsqu'elle s'est approchée du Seigneur, elle s'est convertie. C'est moi-même qui l'avais préparée au baptême, qu'elle avait demandé, et je peux vraiment authentifier le fait qu'elle avait compris véritablement qu'est-ce que c'était que la nouvelle naissance et qu'elle était venue au Seigneur. Elle était vraiment, on a vu des fruits de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Elle a rechuté une ou deux fois, elle a été traitée, elle s'en est sortie à nouveau, la vie a été chaotique, elle avait une forme très grave, probablement génétique, de psychose maniaco-dépressive. Et puis, un jour, on a eu cette nouvelle terrible. Elle venait de se suicider. Ça nous a interpellés. On s'est dit, mais comment quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu peut en arriver là? Eh bien, il a fallu toute une réflexion et une explication aussi à l'Église à ce moment-là, parce qu'on a fait un service pour ces obsèques. que de nous dire, pas comme l'Église catholique dit, le suicidé ne mérite même pas des obsèques religieuses, mais de nous dire, cette femme qui était habitée par l'Esprit de Dieu, elle était habitée dans la totalité de son être, mais dans son être, il y avait un cerveau qui dysfonctionnait, et qui à certains moments, parce que sa chimie du cerveau, l'anatomie, la physiologie de ce cerveau, dysfonctionnait à un point tel, elle a pu en venir à perdre même ses derniers remparts de la conservation de soi, de la protection de soi, et elle a basculé dans un suicide. On peut le comprendre, ça. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'appartient pas au Seigneur. Moi, je suis persuadé qu'elle est auprès de Dieu, malgré ça. Mais c'est une situation ultime. Le suicide, qu'est-ce qui donne l'alerte ? Lorsqu'une personne en parle, bien entendu. Le fait de poser des questions à propos du suicide à une personne qui évoque le suicide ne précipite pas le suicide. Toutes les études le montrent de façon catégorique. Au contraire, lorsqu'une personne parle de suicide, alors là c'est souvent au professionnel de santé qui doit se charger de ça, il faut poser des questions très précises. Est-ce que vous avez fait des plans ? Est-ce que vous avez acheté quelque chose pour procéder au suicide ? Est-ce que vous avez repéré des lieux où vous pourriez vous suicider ? Est-ce que vous avez, il vous reste quelques projets en ce qui vous concerne personnellement et votre famille ? Quand la personne dit non, j'ai plus de projet. Est-ce que vous avez pris des dispositions en vue de votre suicide ? Vous voyez, ça va très loin, c'est provocant comme question. Il faut les poser. Lorsque la personne vous dit oui, j'ai clôturé mes comptes, j'ai viré, j'ai fait une lettre pour ma famille et tout ça. Ouh, attention, danger, et il n'y a qu'une seule attitude. C'est pas prier pour cette personne, c'est l'hospitaliser. L'hospitalisation est uniquement ça. Je donne un cours sur la psychiatrie à l'Institut biblique de Genève, je vais y aller dans peu de temps, et c'est ce que je martèle aux futurs serviteurs de Dieu. Ne vous amusez pas à une relation d'aide avec quelqu'un qui en a ce point-là. Ne vous amusez pas simplement à le confier à l'amour de l'Église, etc. Non, il faut hospitaliser. Ça, c'est ce qu'on appelle la crise suicidaire. Donc, le suicide qui est l'obéissance au mensonge ultime, c'est-à-dire que tu ne t'autorises pas le droit d'exister alors que Dieu a voulu que tu existes. C'est l'obéissance et croire au mensonge ultime, eh bien, doit être vraiment pris au sérieux. Je termine ici pour qu'on passe au dessert, je crois.